Contrée délirante. Épisode 2. Et en même temps, c'est ces moments-là, quand je te dis j'aimerais réussir à les contrôler, et, mais y réaccéder, c'est tu sens, t'es quand même dans un état de surpuissance, de toute puissance, tu vois, de surpuissance, du coup, parce qu'on utilise très peu notre intelligence, et là j'avais l'impression d'être vraiment smart, quoi, tu vois, vraiment dans le, j'allais plus loin dans la, j'allais plus loin creuser dans mes potentialités, mes capacités. Cette phase, en fait, c'est le revers. Quelque part, moi, la phase d'hospitalisation et puis les un an souvent qu'il m'a fallu pour m'en remettre à chaque fois, je dirais que c'est le revers de la médaille, tu vois, parce que t'es tellement allé loin haut. C'est peut-être ça, finalement, la bipolarité. T'es allé tellement haut dans le délire que quand tu redémarres, t'es tout en bas, quoi. Il faut remonter la pente, c'est vraiment ça. C'est peut-être ça, finalement, je me le dis maintenant, tu vois, c'est en te parlant que j'y pense. C'est peut-être pas ces périodes de up et périodes de down, c'est peut-être juste le délire qui fait que ton corps et ton cerveau, à un moment donné, il faut qu'ils repartent d'en bas pour revenir à un état d'équilibre, quoi. L'art, je pense que ça serait le meilleur moyen de... Enfin, ouais, en tout cas, il y a quelque chose à faire en termes de production artistique, mais tous mes carnets et tout ça, j'arrive pas trop à savoir comment m'y prendre, en fait. Et du coup, ouais, ce que je te disais, j'ai commencé à retaper mes textes. Il faut que je continue et que ça me donne, même pour écrire... Bon, peut-être pas écrire des chansons, mais... Enfin, j'ai envie de faire peut-être un livre avec tous ces écrits de carnets. Mais je sais pas... Enfin, en fait, il y a ça, il y a cette envie-là, mais il y a aussi la vie à accomplir dans son quotidien, tu vois, c'est con, mais voilà, j'ai pas le temps, en fait, c'est débile, j'aime pas les gens qui disent j'ai pas le temps, mais on a toujours le temps, mais c'est deux mondes un peu différents, tu vois. Et du coup, je me dis qu'un jour, il faudrait que... Bah voilà, si je suis plus en contrat, je me dédie à ça complètement... presque pour un... Mais c'est pas perdu. Je pense que je le ferai un jour, mais pour l'instant, j'ai pas la porte d'entrée, tu vois. J'ai fait 3 ans d'études. Et puis, j'ai repris... J'ai fait un voyage interuniversitaire au Mexique et j'ai repris à fumer du cannabis là-bas. Donc ça n'a pas dû arranger les choses. Et c'était lors de ma 3e année d'études. Du coup, quand je suis rentrée, rebelote, là c'était... En fait, c'est marrant parce que quand j'avais, à la sortie de la 2e BDA, avec un peu plus de recul, je me disais il y avait le côté délire des champs et délire des villes parce que là c'était un autre contexte. J'étais à Lyon, dans un appartement... Et j'avais envie, là c'était plutôt sur un délire de révolution, d'envie de changer les choses, de faire mener la révolution. Est-ce que, oui, si, j'ai quand même des souvenirs de la perte de sommeil reste quand même le, Ça se passe souvent la nuit au départ, quoi. La perte de sommeil revient. Et il y a eu des instants très douloureux dans cette bouffée délirante-là. Notamment, vraiment, en fait, tu vis les choses comme si elles se passaient vraiment. Enfin, tu les vis avec ton cœur, avec tes tripes. Et alors que c'est monté de toutes pièces. Donc, moi, par exemple, j'ai eu la sensation que je venais d'accoucher d'un enfant mort-né. Alors que j'étais pas enceinte et j'ai pas accouché, mais j'avais la sensation d'avoir perdu cet enfant. Et je l'ai vécu comme si ça s'était produit, quoi. Donc c'était une douleur incommensurable, quoi. C'était vraiment... Puis après, il y avait d'autres images qui arrivaient, et puis des voix. J'entendais mon grand-père et mes deux grand-mères décédées qui me parlaient. Et alors, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me rassuraient. Et ça, j'ai du mal à me dire que c'est que ma tête, quoi. J'aime croire qu'ils étaient quand même vraiment avec moi, quoi. Mais ouais, en fait, finalement, heureusement qu'ils étaient là, parce que du coup, avoir cette sensation de perdre un bébé, c'était horrible. Et du coup, ils m'apaisaient, en fait, avec leur voix. C'est comme... alors, des fois, maintenant que ça va mieux et tout, là, des fois, j'ai des petites voix dans la tête et je me dis, est-ce que c'est ça? Et en fait, c'est pas ça. Là, c'est moi qui me parle. Là, c'était vraiment des hallucinations sonores. C'est vraiment comme si, dans le creux de l'oreille, on parlait, quoi, tu vois. Enfin, il n'y a pas de doute, on parle, quoi. C'est pas... Même si c'est ton cerveau qui le crée, je sais pas. C'est encore un mystère, hein. Mais bon, là, il y a ma coloc qui m'a amenée voir le médecin. C'est pareil, je suis allée aux urgences. Ah là, c'était... Je m'étais habillée codée. Donc, j'avais mis... Une chaussette rayée, une chaussette à pois, et ça avait une signification apparemment pour moi. C'était j'ai déambulé dans les couloirs des urgences avec un masque que j'avais trouvé dans les tiroirs. Il m'avait fait patienter dans une salle de consulte et j'avais ouvert tous les tiroirs. J'avais, je sais pas, pris de la bombe qui devait être du désodorisant ou je sais pas quoi. J'avais inscrit des choses avec la bombe sur le mur, alors on voyait rien, mais j'ai déambulé avec ce masque-là dans les couloirs. À un moment, on m'a mis sur un lit et puis on m'a dit après qu'il y avait mon beau-frère qui était de passage à Lyon qui était venu me voir et que j'avais pas voulu le... J'avais mis mon drap sur la tête et j'avais pas voulu le voir. Ça, je m'en rappelle plus, par exemple. Et puis après, du coup, je suis allée à Saint-Jean-de-Dieu, à l'hôpital. Du coup, bah, y a eu un des instants assez chouettes d'ailleurs c'était un service de l'hôpital qui permet de après te mettre, je sais pas comment on appelle ça, un service d'orientation en fait. Après tu t'es affecté au service où tu vas rester plus de temps, quoi. Et là j'ai fait une belle rencontre d'un gars, Salah, et je m'en rappelle encore parce que on était dans... Lui, il me suivait dans mes délires, en fait. On avait même écrit au préfet. Enfin, c'était... J'avais un livre avec des poèmes de Baudelaire, avec des belles illustrations. J'étais dans un truc assez créatif, assez chouette. Et par contre, l'hospitalisation, après, dans le service, donc du coup, j'ai pu revu ça là. Là, ça a été très dur, parce que il me mettait... c'était tous les gens du même arrondissement qui étaient là. Donc des gens très différents, avec des pathologies pas du tout faites. Enfin voilà, c'était toute pathologie confondue. Ce que j'avais oublié de dire aussi pour la première fois et qui s'est répété dans les 4 BDA que j'ai fait, c'est qu'après, dans la phase de sédation, ouais, c'est ça, je dors beaucoup et je passe mon temps à dormir, quoi. Et là, c'était avant cette phase de je dors tout le temps. J'étais encore dans l'excitation du délire. Déjà sous. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais terriblement. Il n'y avait rien à faire. C'est pas que c'était une mauvaise prise en charge, mais enfin, si, il n'y avait pas d'activité faite pour les patients. C'était. Les gens me faisaient peur. Donc, ça, c'était ma deuxième BDA. C'était en 2000. Ma première BD en 2003 et 2008, 5 ans après, deuxième BDA. Où là, à l'hôpital, on a commencé à poser ce diagnostic de bipolarité à tendance maniaque, quoi. Ça a été exclu au bout d'un moment que je puisse être schizophrène, ce qui m'a toujours terrifiée. Je m'en rappelle avoir écrit que je voulais une personnalité unique, en fait, et que je voulais pas... j'avais peur du dédoublement de personnalité. Peut-être que je le mettais comme le truc high level de la psychiatrie, quoi. La schizophrénie, je sais pas. Je me suis fait peut-être une image ou d'un truc ingérable, en fait, enfin, insoignable, alors que moi, j'imagine que je peux peut-être maîtriser mes crises, en fait, et que cette bipolarité, je peux la m'adouer. Enfin, c'est ce à quoi je vise. Pour finir sur le déroulement, j'ai pu reprendre ma quatrième année, donc c'était dans l'année qui a suivi, l'année scolaire qui a suivi la deuxième BDA. Et là, j'ai complètement arrêté du coup de fumer du cannabis. J'ai pris un traitement aussi, du dépakote à l'époque. Ouais, c'était du dépakote. Et du coup, je me suis mise déjà un peu plus dans l'idée que bah, si ça revenait, c'était peut-être que c'était un peu plus grave que ce que je voulais bien penser quand j'avais 17 ans, quoi. Et puis, il y a eu l'épisode à Marseille. Entre-temps, à chaque fois, j'ai fini mes études, j'ai voyagé, j'ai eu mon premier boulot à Tahiti, j'ai repris... Ouais, à chaque fois, c'était quand même souvent en lien avec les retours de voyage. Et là, ça nous mène à l'installation au retour de Tahiti à Marseille. Et là, je ne suis pas complètement partie dans le délire. Et c'est en ça que, pour te répondre tout à l'heure, tu me demandais l'histoire du contrôle. Il n'y a pas eu ce déclic qui est revenu, du coup, quelques années plus tard, quand j'ai fait ma quatrième crise en Guinée. À Marseille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce déclenchement du délire à proprement parler. Je pense que j'ai réussi à alerter assez tôt. Alors, pourquoi en Guinée, je n'ai pas réussi? Pourtant, j'ai alerté, mais... c'était que c'était plus fort que moi. Je pense que la situation de stress était trop importante par rapport à Marseille, où du coup, je commençais un boulot, mais je pouvais me permettre d'arrêter. Je commençais une coloc, mais je pouvais retourner chez mes parents. Ça avait moins d'enjeux que là, la Guinée. Je t'en parlerai après. Du coup, c'est lié à la séparation, surtout avec le père de l'enfant. Et du coup, la séparation avec l'enfant. Donc, ça n'avait pas les mêmes enjeux, quoi. Donc du coup, Marseille, j'étais en phase d'excitation beaucoup, je tenais pas en place, j'avais une copine qui était venue me voir, on avait commencé un Scrabble, je me levais toutes les deux secondes pour aller chercher un verre d'eau, je venais, je repartais, j'allais chercher autre chose, je jouais un coup de violon entre le jeu, enfin j'étais pas du tout concentrée. Ouais, c'était en 2012, ouais, j'avais 27 ans. Et donc là, je suis retournée chez mes parents. Donc j'étais allée voir, comment ça s'appelle ces centres-là, ouais, CMS, un centre médico-social. Et du coup, j'avais eu le temps parce qu'en fait, on m'a gentiment remerciée à la suite de ça. J'étais encore en période d'essai au boulot. Et je suis quand même rentrée chez mes parents. Et c'est moi qui ai décidé d'aller me reposer dans une maison de repos psychiatrique, mais où il y avait des femmes. C'était à Saint-Rémy-de-Provence. Avec toute une orientation assez art thérapeutique, qui de prime abord était plutôt alléchante. Après, c'était beaucoup basé sur la peinture. Moi, je suis pas du tout dans le dessin, et donc du coup, j'en ai pas beaucoup bénéficié. J'ai un souvenir de cette maison de repos comme vraiment, je dormais tout le temps. C'est-à-dire que je me levais le matin à 8h pour aller petit-déj. Déjà, c'était très très dur de m'arracher du lit. Et je remontais et je redormais jusqu'au repas de midi. Et pareil, l'après-midi jusqu'au repas du soir, quoi. J'ai très peu de moments de veille. J'avais relu, j'avais demandé mes dossiers. J'avais relu ce qu'ils avaient marqué. Et eux, ils étaient, c'était il n'y avait que des femmes. Et les soignantes, c'était que des femmes aussi, les infirmières. Il n'y avait que le coq au milieu de ses poules, quoi. C'était le médecin-chef, quoi, le psychiatre, directeur de la clinique. Et lui, du coup, quand il a fait son rapport, il disait qu'en gros, je m'étais ouverte grâce à... parce qu'on avait fait à un moment une séance de photos avec des patientes et que c'était un... alors que je me trouvais immonde en plus sur les photos, lui, il pensait que ça m'avait ouverte. Enfin, c'était un peu pour mettre, tu sais, de... faire une analyse positive de mon séjour, comme s'il m'avait... pour avoir un bilan positif, lui, dans son service, quoi. J'avais rencontré Juliette Binoche, qui venait faire un tournage de film sur la vie de Camille Claudel. Très beau film, d'ailleurs. La première fois, j'étais encore dans les études, donc se posait pas la question de l'après. La deuxième fois... La première fois, j'allais faire mes études. La deuxième fois, j'étais encore dans mes études, donc ça ne posait pas la question de l'après. Mais là, j'étais déroutée parce que je n'avais pas de projet pour après. Et ce n'est pas dans ces moments-là que tu peux en avoir. Donc, c'était très angoissant. Du coup, je suis allée me reposer chez mes parents. Et suite à la maison de repos, j'ai pris un peu de temps chez mes parents sans vraiment avoir de projet. Et puis après, il y a eu l'opportunité d'aller en Guinée, et je suis repartie pour y travailler et m'y installer. Et je pensais que c'était derrière moi. Et puis, en fait, du coup, c'était au départ... C'était 3 ans et demi après mon arrivée en Guinée qu'a ressurgi la quatrième crise, quoi. Donc là, ça nous mène en 2016. J'avais 31 ans. Et je touche du bois pour que ça soit la dernière. Mais j'en suis persuadée maintenant. Mais si j'arrive, voilà, à maîtriser ce et à contrôler et à maintenir un équilibre de vie, en fait, et à plus me laisser avoir par mes émotions, en fait. Bolo nyombe ne takale.